Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Grace Amzati.
Journée internationale des droits de la femme ce vendredi 8 mars. À cette occasion, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies salue tous les résultats obtenus par les femmes et les filles du monde entier dans la lutte pour l'égalité. Antonio Guterres déplore cependant les obstacles auxquels elles font face, notamment l'injustice, la discrimination et la persistance des violences. Des milliers de déplacés arrivent depuis deux jours à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero au nord Kivu. Ils fuient l'intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans plusieurs localités du territoire voisin de Rutshuru. Notre invitée est Faïda Mwangilwa, consultante dans les questions de genre. Elle réagit au thème national de la Journée internationale de la femme de cette année, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Madame, messieurs, bonjour. Nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. La déclaration est du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. Pour Antonio Guterres, les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Le patron de l'ONU fait cependant remarquer que les femmes et les filles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante des violences à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité, dit-il. On écoute Antonio Guterres.
Notre monde porte encore les stigmates des millénaires des rapports de force dominés par les hommes et les progrès sont remis en cause avec des réactions virulentes contre le droit des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. Nous devons avancer beaucoup plus rapidement. En cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Les thèmes de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappellent que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ces combats. Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle des premiers plans des femmes dans l'économie, les technologies numérique, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, il faut débloquer les financements du développement durable afin que les pays disposent de fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, la finance, les banques centrales et les ministères des finances. Cela peut contribuer à stimuler les investissements dans des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Je vous remercie.
Et au Maniema, la chef des divisions du genre, famille et enfants, au nom de la femme de cette province, dit compatir avec les femmes de l'Est du pays qui souffrent des affres de la guerre. Régine Kapunga Sifayao appelle les autorités à mettre fin à ces atrocités. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
La Journée internationale de la femme de l'année 2024 est célébrée dans un contexte particulier parce que réellement, nos pères sont dans les rues. Nos pères sont violés, nos pères sont tués et je leur dis plus de condoléances. Elles ne sont pas seules, nous sommes avec elles, nous ne pouvons pas les oublier dans nos prières. Cette journée, c'est une journée que nous célébrons dans la tristesse. Parce que quand nous regardons nos consoeurs de l'Ituri, du Nord Kivu surtout, nous voyons réellement que les hommes vont préparer la guerre entre eux, mais les victimes sont les femmes et leurs enfants. Nous voulons à ce que vraiment le monde entier puisse savoir que à l'est de la RDC, il y a un génocide. Voilà pourquoi nous avons choisi la commémoration de cette journée teintée de noir. C'est pour interpeller également les autorités de notre pays, que les autorités fassent tout pour retrouver la paix dans l'est de la RDC.
Un autre cri de détresse en cette journée du 8 mars vient de l'Ituri. Là aussi, c'est une femme, mieux une jeune femme, qui prend la parole pour plaider la cause de sa province face à l'insécurité qui décime des vies dans cette partie de la RDC. Sarafine Mouderoi, jeune leader de l'ONG Synergie des jeunes filles de l'Ituri, veut que l'attention du gouvernement congolais et de la communauté internationale soit portée non seulement sur le Nord Kivu, mais aussi sur l'Ituri. Elle s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
C'est comme si ici à Ituri, il n'y a pas les gens, il n'y a pas la guerre. Alors que nous avons ADF Nalu, c'est un groupe étranger, ce n'est pas un groupe local. Il y a les groupes locaux qui dérangent la paisible population. Nous demandons à la communauté internationale, avec la main sur les cœurs, nous demandons à notre gouvernement de fournir aussi des efforts pour la province de l'Ituri. Il y a des gens qui sont tués ici, il y a des femmes qui sont violées, il y a des jeunes filles qui ne partent plus à l'école, il y a des jeunes filles qui sont tuées, elles sont violées, elles sont mutilées. Nous demandons au gouvernement central, nous demandons à la communauté internationale de prêter l'attention aussi à l'Ituri. Il y a le sac qui coule ici. Il y a aussi génocide à Ituri, comme on dit, il y a génocide au Nord Kivu. S'il vous plaît, mettez aussi l'accent sur ce qui se passe à Ituri, à nos frères qui sont dans la brousse. Il y a d'autres provinces qui sont en train d'être construites par les affas de la province. Mais nous, jusqu'à quand nous allons continuer à nous tuer?
Par ailleurs, la situation de la femme de la Tchopo n'est pas assez différente de celle de la femme congolaise en général. Bien que certaines avancées soient notées sur le plan juridique, elle est cependant marquée par la précarité et la pauvreté. C'est en tout cas ce que pensent certaines femmes leaders de cette province. Celles-ci se battent pour la reconnaissance des droits de la femme ainsi que son autonomisation. Elles l'ont fait savoir ce jeudi à Radio Kapi en marge, bien sûr, de la journée du 8 mars. Un reportage signé Jacques Mukonkoli.
Les leaders féminins de la Tchopo reconnaissent à l'unanimité que sur le plan juridique, la situation de la femme a évolué. Charlie Andiro, point focal du Fonds pour les femmes congolaises dans la Tchopo.
La RDC a ratifié beaucoup d'instruments au niveau régional, sous-régional, dans nos textes aussi. Bien qu'à faible taux, les femmes occupent quelques postes de responsabilité à tous les niveaux.
Sur le plan politique, les avancées sont également observées, comme le déclare Maggie Libébélé, coordonnatrice des femmes des médias dans la Tchopo.
Aujourd'hui, en politique, les femmes ont avancé. Ça se voit par rapport à la participation de la femme comme candidate cette fois-ci.
Cependant, du point de vue socio-économique, l'insécurité et les guerres, notamment à l'est du pays, ne favorisent pas l'épanouissement de la femme congolaise. Charlie Andiro et Maggie Libébélé expliquent.
La majorité des femmes vivent dans une situation de précarité parce qu'il y a la guerre, il y a l'insécurité.
Des femmes qui travaillent à l'informel dans des petits commerces, tout ça, ça n'évolue pas. Et là, les défis à relever sont nombreux.
Quoi qu'il en soit, les organisations féminines de la Tchopo comptent continuer à sensibiliser les femmes et les hommes sur le bien fondé du travail en synergie, la justice distributive, ainsi que sur la masculinité positive. Jacques Mukonkoli, Kisangani, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, des milliers de déplacés affluent depuis deux jours à Kanyabayonga, une commune rurale du territoire de Lubero, au Nord Kivu. Ces déplacés fuient l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans plusieurs localités du territoire voisin de Rutshuru. Leurs conditions de vie sont déplorables, comme nous l'a dit depuis Beni, Martial Papi Mukeba.
Ces déplacés, en majorité des enfants et des femmes, dont certaines sont enceintes, fuient Kirima, Sumikivu, Bwalanda, Kibingu et Kibirizi. Ces localités du territoire de Rutshuru sont les théâtres des violents affrontements depuis 4 jours entre les FARDC et les rebelles du M23. Certains d'entre eux parcourent plusieurs kilomètres à pied en traversant les parcs nationaux de Virunga avant d'atteindre Kanyabayonga. Sur place, ils vivent dans des conditions déplorables. Kavalizawa dit de l'organisation locale, groupe de volontaires pour la promotion de la paix témoigne.
Beaucoup de personnes sont exposées aux intempéries. Hier, nous avons constaté même la mort d'un enfant. Comme à Kanyabayonga, nous n'avons pas aucun site pour recevoir toute la population là. Il y a beaucoup de populations qui sont en train de dormir dans des marchés, dans des hangars. Alors la situation est déplorable.
Les autorités locales disent craindre un débordement de la situation humanitaire à Kanyabayonga qui comptait déjà plus de 10 000 ménages de déplacés. Cette commune rurale locales ne disposent pas également d'un réseau d'addiction d'eau potable et certaines structures sanitaires locales qui reçoivent des déplacés malades, dont des femmes enceintes, ont des difficultés de fonctionnement faute des médicaments. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Sur le théâtre des opérations, hier, pour la 4e journée consécutive, les affrontements se sont poursuivis entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans la chefferie de Bouito, c'est dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs sources parlent d'une avancée des rebelles qui occupent depuis la soirée de mercredi les agglomérations de Kikuku et Kibirizi. La situation est restée étendue dans ces localités et plusieurs autres villages environnants qui sont presque vidés de leurs habitants. Autre nouvelle sur la radio de la paix, le marché transfrontalier de Lufu est sécurisé mais pas assez à cause de l'insuffisance du nombre de policiers commis à sa sécurité. C'est l'administrateur de ce marché qui l'a dit. Il sollicite encore plus de policiers pour faire face à l'insécurité dans le marché et même dans la cité, notamment celle menée par les Kuluna qui ont trouvé refuge à Lufu. Voici la suite de notre série de reportages sur Lufu avec Daniel Tambizoni.
Le phénomène Kuluna étant presque devenu une discipline nationale, le poste frontalier de Lufu et son marché ne sont pas épargnés. Face à cela, l'administrateur du marché dit recourir aux efforts de tous les services de sécurité installés dans la zone pour maintenir la quiétude dans le marché. Félix Bokoutchou.
D'abord, les difficultés sécuritaires, parce qu'au moins la pandémie a occasionné l'installation de certaines familles qui sont venues s'installer au sein du marché, et aussi l'effectif de la police commis pour le marché. Est tellement insignifiant aussi.
Mais la société civile, elle, va plus loin. L'insécurité à Lufu n'est pas seulement causée par les inciviques Kuluna, même les agents publics commis à cette tâche ont transformé Lufu en une jungle où les plus forts survivent.
Ici, les lois du pays ne sont pas assez respectées, aussi bien du côté population que des services publics. Tantôt les Kuluna qui volent et tuent, nous savons que le rôle de la police consiste à sécuriser la population, et c'est bien. Mais dans la pratique, ici à Lufu, les policiers ne sont là qu'à la quête d'argent. Nous vivons ici comme dans la jungle, et la population, et les policiers, et les agents public sont tous dans l'imbroglio comme pas possible. Tout le monde à la recherche d'argent. Imaginez que l'auditorat militaire se comporte comme la police.
Ces agents publics profiteraient de l'ignorance de la population majoritaire analphabète, ne sachant pas faire la différence entre les attributions de chaque service, affirme la société civile. C'est le cas d'un groupe de commerçants arrêté le vendredi 7 février, transportant des sacs de semoule de maïs par les éléments de l'auditorat militaire, dont le bureau est installé au cœur même du marché.
Merci à vous, Daniel Tambizoni, pour toutes ces précisions. Et puis, au Kasaï central, le gouverneur des provinces réagit sur l'état inquiétant de la route Kananga-Kalambambouji et les travaux exécutés par l'entreprise Tora. John Kabea indique ce jeudi à Radio Kapi que la première phase avec l'ouverture de la piste connaît des perturbations avec les pluies qui détruisent la voie et obligent l'entreprise à revenir sur les travaux déjà effectués. Il explique également qu'une autre difficulté reste le financement que la société qui exécute les travaux attend du gouvernement central pour l'avancement des travaux sur cette route d'espoir pour le Kasaï central. Les propos de John Kabea sont recueillis par François Kadima.
Ce n'est pas le même jour qu'on pose la première pierre qu'on doit démarrer les travaux. Et l'entreprise est appelée à se déployer sur terrain et à un moment, il faut démarrer les travaux. La première opération, c'était d'abord l'ouverture de la piste. Et aujourd'hui, là, c'est la première phase que nous sommes en train d'évoluer de l'ouverture de la piste. Et nous sommes dans une province où il pleut abondamment. On peut ouvrir la piste, mais lorsqu'il pleut, il faut que l'entreprise revienne sur les points chauds. Mais l'entreprise a fait le nécessaire malgré le travail. Ils sont tentés de revenir ce qu'ils avaient déjà fait comme travail. Et aujourd'hui, ils sont au niveau de pont l'État. Parce que ce n'est pas la province qui paye l'entreprise Towa. C'est un contrat du gouvernement central. C'est le gouvernement central de nous communiquer les financements, c'est à quel niveau. Et nous jouerons le rôle, moi, des superviseurs. C'est tous les jours ici que je suis en contact avec le gouvernement central. Lorsque les passagers prennent des photos, ils envoient à Kinshasa. Kinshasa me retourne aussi des mêmes photos. L'unique réponse, il faut payer l'entreprise. Si l'entreprise est payée, cela est motivé pour l'évolution des travaux.
Notons que les travaux sur cette route Kananga-Kalambambouji ont été lancés en 2022 par le chef de l'État. Une fois modernisée, cette voie, longue de plus de 200 km qui relie la RDC à l'Angola, pourra désenclaver le Kasaï central. Elle permettra les échanges commerciaux et ouvrira la voie vers l'océan Atlantique à partir du port de Lobito.
Actualité internationale.
Au Cameroun, la conférence ministérielle sur le paludisme qui réunit 11 des 12 pays les plus durement touchés par cette maladie a débouché sur la déclaration de Yaoundé. Les ministres du Ghana, Mali, Mozambique ou encore de la République démocratique du Congo s'engagent à réduire d'au moins 90% le taux de mortalité du paludisme par rapport à la situation des références en 2015.
L'invité.
Dans une nation où les femmes font encore face aux pesanteurs culturelles et à la masculinité positive, il est difficile d'accroître leur pouvoir économique. C'est ce que pense Faïda Mwangilwa en réaction au thème national de la journée internationale du 8 mars de cette année, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Faïda Mwangilwa, consultante dans les questions de genre, est notre invitée. Elle s'entretient ici avec Cynthia Bachizinabizana.
Madame Faïda Mwangilwa, bonjour.
Bonjour.
Pour l'édition du 8 mars 2024, la ministre du Genre a demandé aux femmes de s'habiller en noir. Pourquoi cette demande?
Bon, disons, nous sommes africains. Nous sommes des femmes africaines et donc lorsque vous êtes en deuil, lorsque vous connaissez deux cas de décès, des tueries, effectivement les gens s'habillent en noir. Par rapport à la situation qui se passe à l'Est, voilà pourquoi je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à ça comme africaine.
Mais vous pensez que c'est quelque chose qui va faire bouger les lignes?
Là, c'est un autre volet du problème parce qu'on travaille sous plusieurs volets sur le plan diplomatique au niveau interne par rapport à nos dirigeants parce que franchement, ce qui est plus utile, c'est d'abord la paix. Les femmes qui sont dans ces camps, les femmes qui vivent des conditions difficiles, on ne parle pas celles qui sont mortes, nous continuons à les plaire, mais pour le moment, ce qui est plus urgent, c'est la paix. Et c'est cela la demande de femmes congolaises actuellement et même des autres femmes africaines, des autres continents qui sont avec nous. C'est la cessation des hostilités, c'est la paix.
La paix, hein, d'ailleurs, qui figure aussi dans le thème national de cette année, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix, donc pour un Congo paritaire. Que vous inspire le thème national de cette édition 2024?
Vous savez, le thème de cette année lance un appel à tous les acteurs et actrices de développement pour accroître les ressources en faveur des femmes. Et comment on peut accroître ces ressources-là? Les ressources, c'est pas seulement par rapport aux finances, aux billets. L'argent qu'on peut donner aux femmes. Lorsque vous améliorez les services, par exemple, de fourniture d'eau et d'électricité, là, vous ouvrez de voies pour permettre à ces femmes d'accroître les ressources. Vous ne savez pas combien les femmes souffrent. Elle a un capital de $200, elle vend au marché, et quand il n'y a pas d'électricité, elle perd le tout et rentre à zéro. Voilà combien on s'est dit, il faut pousser les femmes, il faut accroître les ressources des femmes, il faut développer des projets pour les rendre autonomes.
Madame Mwangilwa, aujourd'hui, hein, certaines personnes peuvent dire, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qu'il y a énormément de projets qui sont développés pour justement en arriver à cette autonomisation de la femme. Je prends par exemple le projet Transform de la Banque mondiale qui a donné des millions, on est à plus de 300 millions de dollars américains sur 5 ans. Il y a l'Agence française de développement qui vient d'accorder aussi 12 millions d'euros, toujours pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes. Quelle lecture vous avez de tous ces projets?
Merci beaucoup, Cynthia. Brièvement, je peux te dire quoi? Dans une nation où on n'a pas une classe sociale, dans une nation où nous avons des pesanteurs culturels, les femmes font encore face aux pesanteurs culturels, dans une nation où il y a encore la masculinité toxique, il est difficile, même avec des millions, de continuer en tout cas d'accroître le pouvoir ou de réussir les projets d'accroissement du pouvoir économique de la femme.
Est-ce qu'on peut dire que la femme congolaise, c'est une femme épanouie?
C'est une question complexe. Cynthia, donc c'est pour vous dire que sur le plan légal, nous avons évolué, mais dans la culture, dans nos mentales, les choses n'avance pas du tout. C'est pas plus tard que ce matin, je parlais avec une dame qui était au volant. Et elle a connu un problème sur la route, donc un petit problème technique, et s'est arrêtée. Mais c'est tout le monde qui commence à l'ingérer injustement. Bonjour, capé, ma chauffeur, cela veut dire, prenez des chauffeurs, vous ne voulez pas prendre des chauffeurs. Mais mon Dieu, pourquoi vous vous en prenez à cette dame? Si c'était un homme qui a connu un problème technique, on n'allait pas crier sur lui. Donc c'est pour vous dire que on parle d'épanouissement en termes de loi, mais pour matérialiser cela dans le fait, nous faisons face comme femmes à plusieurs défis, et c'est dans presque tous les secteurs de la vie nationale.
Madame Faïda Mwangilwa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité est interrogé par Cynthia Bachizi Nabizana. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce radio-journal, coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Alain Goy. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci et bonne suite de la matinale sur la fréquence de la paix avec Baya Tchamala.